La France paye cher sa politique néocolonialiste. Le Mali a décidé de réprimer les actions illégales de l'armée de l'air française. Après que la France a commencé à lancer des frappes aériennes sur diverses régions de cet État africain sans le consentement des autorités maliennes, à la suite desquelles des civils ont été tués, on a appris donc que le Mali avait décidé visiblement d'acheter un lot de MiG-35 russes de génération 4+, combattants légers. Ces avions, vraisemblablement, pourront être utilisés contre les drones français, également contre les terroristes et les avions de combat français qui bombardent donc illégalement le territoire malien. De plus, ces avions de combat devraient apporter un soutien important aux troupes donc maliennes dans la lutte contre les terroristes qui sont également soutenus par l'Occident. À l'heure actuelle, donc, on sait que le Mali est devenu le premier pays au monde à avoir décidé d'acheter des chasseurs russes MiG-35. Ces avions de combat légers à un coût relativement bas donnent une longueur d'avance importante à l'aviation française qui opère illégalement sur le territoire d'un État africain. Après avoir reçu 4 hélicoptères Mi-171 de Russie, le Mali passe donc une nouvelle commande, 3 chasseurs génération 4+, Mikoyan Gurevich MiG-35. Poids de l'avion à vide, 11 tonnes, charge maximale, 24 tonnes, 500 kg. Sa capacité de combat est de 13 tonnes de 500 kg d'armes, donc sa vitesse maximale est de 2500 km par heure. La plage de fonctionnement est de 3000 km. Le Mali deviendra le 4e pays d'Afrique à posséder un tel chasseur. Et on peut dire que la flotte aérienne du Mali se modernise, a déclaré une source militaire au Mali. Il convient de noter que le fait de l'acquisition d'avions militaires russes inquiète très sérieusement la France, puisque maintenant le Mali a le droit légal d'attaquer n'importe quelle cible dans son espace aérien. De plus, compte tenu du fait qu'auparavant Bamako voulait inviter un groupe de 1000 paramilitaires russes dans le pays, mais ce n'est pas tout, la coopération entre le Mali et l'Iran s'intensifie également. Outre une coopération militaire, la signature d'un protocole de coopération entre l'organisation iranienne du génie minier, la Chambre des mines du Mali, la coopération minière de l'Iran avec ce pays d'Afrique de l'Ouest va aussi donc se développer. La France a tout essayé pour faire plier le Mali et le pousser à aller dans le sens de sa politique, mais en vain. Le sentiment anti-Élysée est bien trop fort dans le Sahel actuellement et les événements de ces derniers jours concernant le convoi militaire bloqué par la population et les tirs des soldats français contre les manifestants ont bien montré la politique de la France concernant l'Afrique. La France ou les États-Unis peuvent bien essayer de critiquer la Russie ou la Chine en Afrique, mais les Africains savent pertinemment que leur problème principal, c'est bien les Occidentaux et personne d'autre. Paris est sur la sellette en Afrique, mais même si son allié Washington tente de récupérer les commandes, la population africaine n'est décidément pas prête à fournir les efforts nécessaires pour chasser la France pour que les États-Unis ou bien les autres pays européens viennent prendre sa place. La situation est telle que les Africains ne veulent plus laisser passer quoi que ce soit. L'heure est à la révolte et la seule chose qui pourrait l'apaiser, c'est bien le départ définitif des troupes d'occupation étrangères, des ambassades considérées comme des comptoirs coloniaux et des multinationales occidentales. Le temps où les militaires occidentaux se croyaient en terrain conquis est décidément révolu. Au Niger, même scénario qu'au Burkina Faso ou partout ailleurs en Afrique francophone d'ailleurs, la France pille, réprime et tue les populations africaines en toute impunité comme si c'était normal. L'affaire des manifestants burkinabés qui ont été blessés par balles reste assez troublante, mais donc n'est-il pas vraiment important pour que l'ONU ou la communauté internationale, qui monte généralement sur ses grands chevaux, a la moindre égratignure sur les civils en brandissant le drapeau de défenseur des droits de l'homme et bien sûr de la démocratie, se penche dessus. Le fameux convoi militaire français ne s'est jamais senti aussi secoué de toute sa vie, démarrant de la Côte d'Ivoire pour se rendre visiblement à Gao, au Mali, en passant par le Burkina Faso, puis par le Niger, pour se rendre donc au Mali, qui, soit dit en passant, n'arrête pas de nous bassiner avec un retrait des troupes militaires d'occupation du Mali. Mais un nouveau convoi donc militaire se rend tout de même dans ce pays d'Afrique de l'Ouest. Nous n'allons pas nous attarder sur ce point, car tout le monde le sait, le déploiement de ces bases militaires et les présences massives ne servent de toute façon pas les intérêts des pays africains, mais bien au contraire, s'ils sont là, c'est bien pour tuer le peuple africain. D'ailleurs, c'est pour cela qu'on assiste à un soulèvement massif dans les pays du Sahel, lorsque le peuple se soulève et barre la route aux convoi militaire français en l'empêchant de passer et même en le poussant au point d'utiliser des balles réelles pour passer ne peut pas être l'œuvre d'une tentative de manipulation des pays du bloc de l'Est à travers les réseaux sociaux. En effet, donc la France s'est mise toute seule dans ce pétrin et ses alliés de Washington et les Européens également. La population sahélienne n'est plus décidée à rebrousser chemin. Elle va avancer jusqu'à ce qu'elle obtienne le départ imminent des troupes d'occupation étrangères de son continent. Les Africains savent que ce qui leur vient donc de l'Occident est un poison, que ce soit les vaccins, les initiatives sociales, les ONG, les sommets France-Afrique, etc., etc. Ce soulèvement est donc légitime et entre dans le droit des peuples africains qui consiste à défendre la souveraineté de leur territoire. Ce fameux convoi militaire français d'une centaine de véhicules a donc de nouveau été bloqué par des manifestants dans la ville de Terra, dans l'ouest du Niger, selon des informations de l'état-major. Les soldats français ont effectué des tirs de sommation et même scénario qu'au Burkina Faso, des Nigérians ont bizarrement été blessés et même tués. Le convoi s'est arrêté hier soir à Terra. Ce matin, quand ils ont voulu reprendre leur progression vers Niamey, à 200 km de là, ils ont été arrêtés par un millier de manifestants et un groupe violent, parmi eux, aurait tenté de s'emparer des camions, a détaillé le porte-parole de l'état-major français, le colonel Pascal Lani, auprès de l'agence de presse. Les forces de sécurité nigériennes étaient sur place et ont réussi à maintenir les manifestants à distance du convoi, a-t-il expliqué. Mais après un moment de calme, vers 10h30, la tension est remontée chez le millier de manifestants. Mais sans plus d'explications, les Burkinabés et les Nigérians se font tirer dessus et ça passe l'air de rien. Aucune réaction de la part de la communauté internationale, aucune enquête n'est prévue. Bref, visiblement concernant l'Afrique, cela ne pose pas de problème à personne. Au Burkina Faso, les médias mainstream ont simplement prétendu que des manifestants ont été blessés dans des circonstances inconnues. Et c'était suffisant, visiblement. Si cela ne pose aucun problème en Occident, cela ne passe pas en Afrique et le soulèvement ne fait que s'empirer. L'armée française a beau menacer la population, mais rien ne changera. Les populations sont bien décidées à les pousser hors du continent. Les médias occidentaux n'arrêtent pas de dénigrer l'Afrique et de relayer donc de fausses informations. Les politiques également, si l'Occident en vient à ce genre de pratique, c'est par panique et rien d'autre. Sans l'Afrique, l'Occident n'est rien et c'est un point essentiel à ne pas oublier. Retardée par la chute de Kaboul, la tournée africaine, Nigeria, Sénégal et Kenya du secrétaire d'État américain aux affaires étrangères Anthony Blinken a enfin eu lieu, parsemée de petites piques envers le géant chinois et de la déclaration d'intention. Alors que Pékin envisage des concertations concrètes sino-africaines à Dakar, Washington promeut un sommet virtuel sur les démocraties et Paris s'émeut via son ministre des Affaires étrangères Jean-Yves Le Drian appelant à la création d'un « New Deal » avec l'Afrique, pour lequel il n'y a ni schéma ni chiffre. Nos concurrents n'ont ni tabou ni limite, a affirmé Le Drian, en désignant la Chine et la Russie taxés de partenaires prédateurs. Une manière vieille pour l'Occident d'enrober ses intérêts stratégiques, donc sécuriser ses sources d'énergie et s'assurer l'accès aux minerais et terres rares, derrière les belles intentions civilisatrices et démocratisantes et son messianisme droit de l'homique. En face, la Chine, destinataire du cinquième des exportateurs mondiaux de matières premières, avance démasquée, le chéquier à la main. Lors du 7e forum sino-africain en 2018, déjà le président Xi Jinping avait promis 60 milliards de dollars à l'Afrique, dont une ligne de crédit de 20 milliards de dollars, un fonds de 15 milliards de dollars de financement des importations africaines, 15 milliards de dollars d'aide gratuite et de prêts sans intérêt assortis d'un engagement à annuler la dette des pays les plus pauvres, des pays insulaires et enclavés. Pendant ce temps, le locataire de la Maison Blanche traitait l'Afrique de pays de merde et tentait, entre autres, de mettre le Rwanda au pas pour avoir envisagé d'interdire les friperies américaines dans le cadre de l'African Growth and Opportunity Act, donc l'AGOA, une loi Bill Clinton lancée en 2000 et à l'efficacité discutable. Alors que les grandes institutions financières occidentales réduisent la voilure sur l'Afrique, Donc les Chinoises continuent donc de planter leurs fanions en prévision de la route de la soie. Les entreprises de l'Empire du Milieu dominent le secteur des infrastructures où elles sont concurrencées non pas par leurs homologues d'Europe et d'Amérique, mais par les groupes turcs et brésiliens. Mais si l'Occident a perdu le match sur le terrain des infrastructures et du financement, il peut toujours le gagner sur le tapis vert à travers un arbitre comme le FMI, épouvanté par l'augmentation de l'endettement des pays africains vis-à-vis de Pékin. Le Ghana a eu donc à s'en expliquer, le Congo et le Mozambique aussi, le Djibouti encore beaucoup plus donc. Lui qui a vu sa dette envers le pays de Confucius passer de 50 à 85% du PIB en 2 ans. Selon le cabinet américain China Africa Research Initiative, basé à Washington, la Chine a prêté à l'Afrique un total de 125 milliards de dollars entre 2000 et 2016. C'est plus que ce que toutes les initiatives de la Banque mondiale, du FMI et du G20 promettent à l'Afrique à longueur des forums et des initiatives. En fait, le continent africain a affaire à deux concurrents. D'abord, un partenaire pragmatique qui a une surface financière intéressante et qui ne s'embarrasse pas de principes. Puis, en face, un ancien partenaire donneur de leçons et gardien des normes financières et commerciales mondiales qui peuvent toujours être brandies, qui prétend voler au secours de l'Afrique sans cesse. Sans opter forcément pour l'un ou l'autre, à l'occurrence de la sauvegarde de ses intérêts, l'Afrique doit poursuivre son travail d'intégration, sa logique horizontale qui lui permettra, à travers la zone de libre-échange continentale, de parler d'une seule voix face aux logiques verticales de ses partenaires qui veulent la cantonner dans son rôle de réservoir, de réserve pétrolière et minière, et tout au plus d'enjeux géopolitiques à l'heure où les carottes semblent cuites sur la mer de Chine. Les réactions des officiels africains sont en tout cas explicites. La Chine offre une grande opportunité pour un pays ayant besoin d'infrastructures, a dit le ministre nigérian des Affaires étrangères, en écho aux déclarations du secrétaire d'État américain aux Affaires étrangères. Et d'enfoncer le clou, nous serions allés avec n'importe qui d'autre fournissant quelque chose à un taux compétitif pour nous. Une déclaration à rattacher à celle du président rwandais Paul Kagame lors de la World Policy Conference au Maroc en octobre 2019. L'Afrique n'est le prix à gagner ou à perdre pour personne. Pas du tout. Il est de notre responsabilité en tant qu'Africains de prendre en charge nos propres intérêts et de développer notre continent à son plein potentiel. En réalité, cela a toujours été la question principale. Nous avons attendu beaucoup trop longtemps, en fait, pendant des siècles. Limités dans leur capacité d'endettement et ne pouvant plus donner de garanties souveraines aux bailleurs occidentaux, intransigeants sur cette question, les pays africains se tournent de plus en plus vers les BRICS. Et ce ne sont pas les cris d'orfraie à propos du piège de la dette qui les retiendront, vu que pour le moment les principaux pièges semblent être les contrats signés avec les multinationales du Nord à travers les zones exclusives, donc de règlement des différends, que ce sont donc les tribunaux londoniens ou américains. Le cas du dossier du Tchad face à Glencore est suffisamment illustrateur de la théorie du piège de la dette occidentale, théorie nourrie donc par l'appétit vorace et sans pitié des Occidentaux.
La ministre sénégalaise des Affaires étrangères Essata Tall Sall a dit espérer dimanche, à l'ouverture d'un sommet Chine-Afrique à Dakar, que la Chine apporte son soutien dans la lutte contre l'insécurité au Sahel, où plusieurs pays sont déstabilisés par les activités des groupes terroristes. S'exprimant devant la presse à l'issue d'une rencontre avec son homologue chinois Wang Yi, Mme Sall a dit espérer que la Chine serait une voix forte dans le combat contre le terrorisme dans la région du Sahel. Nous voudrions que la voix de la Chine, compte tenu de son influence, soit une voix forte pour soutenir le Sénégal et tous les pays engagés dans le problème de l'insécurité au Sahel, a-t-elle déclaré. Le sommet Chine-Afrique, qui s'est ouvert dimanche à Dakar, sera centré sur le commerce et la sécurité. Il se tiendra jusqu'à mardi. En 2017, le Burkina Faso avait lancé le démarrage des travaux du projet du nouvel aéroport de Ouagadougou-Donsin. Attendu pour devenir opérationnel en 2024, le projet va recevoir un coup d'accélérateur grâce à la Banque Ouest-Africaine de Développement. En construction au nord-est de Ouagadougou, à 35 km de la capitale, l'infrastructure est destinée à remplacer l'aéroport existant de Ouagadougou-Tamsé, construit depuis les années 60 et qui, rattrapé par l'urbanisation de la capitale, se situe aujourd'hui dans un centre-ville densément peuplé. Une fois construit, l'aéroport aura une capacité d'accueil de 1 million de passagers par an et il permettra de réduire les nuisances liées au trafic aérien pour les habitants de la capitale. La Chine et la Guinée-Bissau ont signé un protocole d'entente sur l'initiative « La ceinture et la route », faisant de ce pays africain le dernier membre en date de l'initiative « La ceinture et la route », selon la Commission nationale du développement et de la réforme, organe suprême de la planification économique de la Chine. Le protocole d'entente a été signé le 22 novembre par l'ambassadeur chinois en Guinée-Bissau, Gu Xie, et la ministre des Affaires étrangères de la Guinée-Bissau, Suzy Carla Barbosa, a indiqué la commission dans un communiqué. Selon le dernier bilan, la Chine a signé plus de 200 documents de coopération sur l'initiative « La ceinture et la route » avec 142 pays et 32 organisations internationales. Au nom du bâtonnier du barreau national de Côte d'Ivoire, l'avocat Dr Cheikh Diop a déclaré que l'avènement du tribunal militaire depuis l'adoption du code de procédure militaire en 1974 et les procès subséquents constituent des avancées marquantes. S'accorder sur la nécessité de mettre en place un tribunal pour rendre la justice au sein des forces armées de la Côte d'Ivoire, de la gendarmerie et de la police nationale et de tenir des procès était un grand pas. Malgré tous les obstacles, le tribunal militaire et son personnel persévèrent, a expliqué vendredi 26 novembre 2021 l'avocat près du barreau de Côte d'Ivoire, Dr Cheikh Diop, lors de la rentrée judiciaire du tribunal militaire d'Abidjan organisée à l'état-major général des armées à Abidjan. Pour lui, il est tout à fait remarquable que des éléments des forces de défense puissent être poursuivis et jugés car les militaires peuvent et doivent être tenus responsables des faits constituant des violations du droit.